il y aurait un vrai problème, et y compris d'ailleurs un problème potentiellement dans la mise en œuvre de ces armes.
Et Joseph Henrotin me rappelle que Vladimir Poutine n'est pas seul à décider. Il n'a pas une valise avec un gros bouton rouge qu'il pourrait actionner tout seul et sans concertation depuis son bureau du Kremlin.
En fait, Vladimir Poutine est en permanence accompagné d'une mallette nucléaire, qui est en fait pas une mallette dotée d'un bouton ou quelque chose de genre, qui est en fait un système de communication sécurisé et qui permet à Vladimir Poutine, en fait, d'ordonner des tirs nucléaires. Alors, le tir en tant que tel, à ce moment-là, n'a pas encore lieu. Pour cela, la communication doit être reçue par l'état-major général russe, et c'est au niveau de l'état-major général russe que sont disposés en fait les codes de lancement. Alors à partir de ce moment-là, en fait, il y a deux options. Soit le tir est généralisé, hein, on envoie l'ensemble des armements, etc. Soit ce sont l'une ou l'autre unité qui est spécifiquement contactée avec l'ordre de lancement, les codes d'authentification, etc., etc. Mais bien évidemment, cela présuppose que l'état-major général joue le jeu de l'ordre. Il n'est pas complètement impossible, en théorie du moins, il n'est pas complètement impossible que l'ordre ne soit tout simplement pas respecté par les responsables au niveau de l'état-major général russe.
Je retiens trois éléments clés dans l'analyse de Joseph Henrotin. D'abord, que Vladimir Poutine pourrait être sérieusement tenté d'utiliser le feu nucléaire en Ukraine via des armes nucléaires tactiques pour reprendre un avantage militaire alors que son armée est en mauvaise posture. Mais je retiens aussi, deuxièmement, que les conséquences associées à de telles frappes pourraient poser énormément de problèmes à la Russie. Intervention en zone contaminée, mise au ban des nations, sans pour autant de réel avantage stratégique gagné sur le terrain opérationnel. Et puis troisièmement, je retiens l'idée que l'état-major militaire pourrait ne pas suivre l'ordre de Vladimir Poutine si celui-ci décidait de déclencher l'arme atomique. Ceci dit, quand j'entends Joseph Henrotin, j'entends aussi et surtout un pari sur la rationalité. Et si pas la rationalité de Vladimir Poutine, à tout le moins celle de son état-major. Or, dans une telle escalade militaire et potentiellement nucléaire, peut-on vraiment se fier à la rationalité ? Ou peut-être devrait-on dire à ce que nous considérons, nous occidentaux, au travers de notre prisme, comme étant rationnel ou irrationnel ? Après tout, cette guerre, très peu l'avaient vu venir, justement parce qu'on se disait que rationnellement, Vladimir Poutine ne poserait pas ce choix. Il l'a pourtant fait, suivi par son état-major.
La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine.
What could be the worst war since the beginning of the century?
Pour poursuivre la réflexion sur ce risque de guerre nucléaire, j'ai pris rendez-vous aussi avec Yannick Kehaut, le directeur général du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles, un centre de recherche qui s'est développé dans le contexte de la guerre froide et qui étudie de près la course à l'armement et les rapports Est-Ouest. Et Yannick Kehaut commence par me faire cette précision assez essentielle à mon avis.
En fait, le problème avec la dissuasion nucléaire, c'est que, ou la bonne solution avec la dissuasion nucléaire, en fait, c'est qu'on a réussi à en faire un tabou. C'est-à-dire qu'on a instauré une règle de non-usage. Il ne faut pas employer l'arme nucléaire, parce que pour plein de raisons, d'un point de vue tactique, des risques d'escalade, des risques de mauvaise interprétation, et parce que ça constitue un crime de guerre que d'exécuter comme ça, purement et simplement, sans discernement des dizaines de milliers de personnes, ça pose énormément de problèmes. Donc on a réussi à faire ça. Et une des conséquences, c'est qu'on ne sait pas en fait dans quelles circonstances une arme nucléaire peut être utilisée ou pas. On n'a pas de big data sur une guerre nucléaire, comment elle se passerait, qui ferait quoi. Alors on spécule, hein, on fait des scénarios, et même des gens qui sont payés pour ça. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc ça crée une forme d'incertitude où chacun essaye de se rassurer un peu comme il faut, comme on peut, ou comme il faut peut-être parfois aussi, parce que on peut vivre dans un univers paranoïaque tout le temps. Donc on fait une liste des réactions anticipées de Vladimir Poutine au cas où il utiliserait une arme nucléaire, de comment réagiraient les autres. On fait des listes comme ça et on se rassure en piquant dedans ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. On se dit voilà, il a telles alternatives entre-temps, on peut essayer de se rassurer comme ça. Mais il faut admettre en fait qu'il n'y a pas d'hypothèse probabiliste. Il n'y a pas d'approche probabiliste de l'usage des armes nucléaires. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les données pour, et c'est une bonne chose que nous ne les ayons pas.
Pour autant, j'ai quand même envie de savoir comment Yannick Keogh considère, lui, ce risque nucléaire. Est-il particulièrement aigu et renforcé depuis l'invasion russe en Ukraine ?
Est-ce qu'on a un point de tension qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vu ? Oui. Est-ce qu'il y a un risque nucléaire dans le conflit en Ukraine ? Oui. Maintenant, est-ce que ce risque, il invite d'emblée à aller se réfugier dans des grottes avec des capsules d'iode ? Non plus. La difficulté, c'est d'essayer de le mesurer. À partir du moment où vous avez une puissance nucléaire dans un conflit, elle peut décider de recourir à l'utilisation des armes nucléaires suivant les circonstances qu'elle rencontre. Ça, c'est une vraie possibilité. Et Vladimir Poutine a été assez clair dès le départ, avant même le début du conflit, que ce conflit aurait une dimension nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est un permis pour lui de faire la guerre. C'est un permis de s'assurer que d'autres puissances nucléaires, et notamment les pays de l'OTAN, n'interviendront pas dans ce qu'il considère comme étant son précaré, sa guerre légitime à mener pour lui, pour les intérêts de son pays, ou du moins tel qu'il le perçoit. Et dans cette optique-là, il a clairement décidé de jouer une carte nucléaire pour dissuader les autres pays d'intervenir directement dans le conflit.
Ceci dit, pas mal de spécialistes, dont Isabelle Mandreau, qu'on entendait au début de cet épisode, estime que Vladimir Poutine, dans cette guerre en Ukraine, fait évoluer le principe de la dissuasion nucléaire pour en faire une arme offensive plutôt que défensive. Le directeur du GRIP, lui, ne partage pas vraiment cette analyse.
Mais je pense que c'est une lecture un peu tronquée de ce qu'est la dissuasion nucléaire. On vous dit que c'est une arme défensive qui sert à se défendre en cas d'ultime recours. C'est faux historiquement. La première utilisation d'une arme nucléaire, elle est faite pour précipiter la capitulation du Japon et envoyer un signal au reste du monde, particulièrement à l'Union soviétique, comme quoi non, l'avancée des forces soviétiques en Europe va s'arrêter là et qu'il y aura par après une protection américaine, le déploiement par la suite d'un parapluie nucléaire américain en Europe pour mettre les Européens à l'abri du risque soviétique ou du risque communiste. Si on se rappelle un petit peu plus tard aussi, dans l'ordre de la crise de Suez, les Britanniques et les Français décident d'intervenir pour récupérer la possession du canal de Suez. Et ils se font renvoyer chez eux, de manière diplomatique, à l'instigation des deux supergrands, qui sont nucléaires à l'époque, qui leur disent « le monde a changé, vous n'êtes plus autorisés à interagir et faire ce que vous voulez comme opération militaire dans votre précaré ». Et les deux pays se retournent chez eux et se disent « nous allons nous doter d'une arme nucléaire pour garantir que personne ne nous donne la leçon et que nous soyons en mesure, à l'international, de défendre nos intérêts par la force si nécessaire ». Et si vous voyez dans les 20 dernières années qui mènent des opérations extérieures militaires majeures, ben vous allez trouver quelque part à la baguette des puissances nucléaires. Et vous allez trouver qu'en fait, elles agissent de cette manière-là parce qu'elles ont les moyens capacitaires de le faire et aussi qu'elles poursuivent leurs intérêts jusqu'au moment où une autre puissance nucléaire rentre dans le portrait et poursuit d'autres intérêts. On l'a vu en Syrie. Vous avez la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et même Israël qui sont rentrés dans ce conflit-là. Ils ont tous une composante nucléaire, ils ont tous poursuivi leur propre agenda. Au moment où la Russie est rentrée dans le portrait, ça a considérablement changé la dynamique du conflit. Donc cette dimension comme quoi l'arme nucléaire n'est qu'une arme défensive, non, c'est aussi un permis de faire la guerre. Et on le voit en Ukraine.
Mais ce permis de faire la guerre pourrait-il évoluer vers une arme pour s'assurer de la gagner ? Autrement dit, Yannick Keogh pense-t-il que Vladimir Poutine pourrait dégainer l'arme nucléaire pour reprendre l'avantage sur le terrain ukrainien ?
Je pense qu'au lieu de voir la question dans ce cadre-là, il faut se dire quelles sont plutôt les options dont il dispose avant d'avoir à recourir d'une arme nucléaire. Et là, on se rend compte qu'il y en a quelques-unes quand même. La mobilisation de 300 000 soldats, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il attend quand même de cette mobilisation des effets opérationnels sur le terrain. Il y a une durée hein, avant que ces soldats soient opérationnels et en espérant qu'ils soient efficaces sur le terrain, ce qui n'est pas garanti non plus. Il y a un temps sur lequel Vladimir Poutine doit pouvoir compter pour se dire « je verrai bien à ce moment-là qu'est-ce qui arrive comme situation ». Il y a d'autres phénomènes aussi. Vous avez un pays qui, de toute façon, aujourd'hui, est dans une situation de statut de réfugié à l'ensemble du pays, parce qu'entre les déplacés à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, et le reste de l'économie qui ne fonctionne pas ou très peu, bien la situation de la société ukrainienne n'est pas particulièrement enviable à l'approche d'un hiver dont on ne sait pas comment est-ce qu'il va être traversé par les différentes parties, sachant que la Russie contrôle aussi une partie du robinet gazier sur l'Ukraine et peut-être certaines centrales nucléaires aussi. Donc on verra à ce moment-là quelle sera la lecture des rapports de force. Mais ce qui est peut-être de nature à rassurer, c'est de se dire qu'il a d'autres options sur la carte à l'heure actuelle et qu'il a activé plusieurs autres leviers.
Donc, pour Yannick Keogh, ce qui peut nous rassurer là maintenant, ce n'est pas tant que Vladimir Poutine n'aurait pas d'intérêt à utiliser l'arme atomique, mais plutôt le fait qu'il nous reste du temps avant qu'il envisage vraiment cette option. Eh bien, que l'on prenne les enjeux par un prisme plus militariste ou plus pacifiste, on en est toujours réduit à des conjectures, à des paris sur ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine ou dans celle des généraux de son état-major. Personne ne me dit, en tout cas, qu'on peut sérieusement mettre le risque nucléaire de côté. Du coup, pour terminer, après ce regard croisé entre spécialistes de la géostratégie, j'ai envie d'avoir aussi un regard d'historien sur ce qui se joue là, maintenant, en Ukraine. J'ai rendez-vous chez Peter Lagroux, en plein cœur de Bruxelles, à deux pas de la Grand Place. Peter Lagroux est professeur d'histoire à l'ULB, spécialiste de l'histoire du XXe siècle.
Là, j'ai quand même l'impression que de plus en plus, on semble dire et voir que la seule issue, c'est la chute de Poutine.
Et il commence par me proposer un intéressant parallèle entre la Russie d'aujourd'hui, aux prises avec ses revers et ses reculs en Ukraine, et la Russie de 1917. Ébranlée par la guerre, secouée par plusieurs lourdes défaites successives, considérée d'ailleurs comme l'une des causes importantes de la chute du régime tsariste.
En effet, ce qui s'est passé en 17, c'est que l'armée russe allait de défaite en défaite. Et pendant un an, finalement, toutes les forces politiques ont essayé de renverser la vapeur et dire, vous allez voir, on va prendre les choses en main et on va changer la situation sur le front. Y compris le tsar lui-même, qui à un moment donné va à la Stavka à Mogilev et dit, vous allez voir, si en effet les généraux sont des incapables, je vais moi-même m'en charger. Comme le tsar lui-même n'y réussit pas non plus, mais finalement le tsar va se retirer sans faire beaucoup de remous, et on voit le gouvernement provisoire prendre la relève, et finalement aucune nouvelle force politique arrive au changement. Et tout au bout de la chaîne, quelque part, quand toutes les allumettes sont grillées, il ne reste plus que les bolcheviks qui, eux, se différencient des autres, dire non, en effet, nous, cette guerre, on ne la fait plus, on accepte, ce qui est finalement une défaite humiliante, on concède, avec l'accord de Brest-Litovsk, d'énormes territoires.
La Grande Guerre allait précipiter les choses. Au début de 1917, l'hiver était sévère. Les denrées étaient rares, les grèves se multipliaient. L'armée comptait 1 million de déserteurs.
Le 23, la manifestation des 26, la troupe.
En tout cas, ce qui s'est passé en 17, le vrai moteur de la révolution russe a été l'incapacité de l'État tsariste à mobiliser. C'est au moment où on estime que 3 500 000 soldats ont jeté leurs armes, ou d'ailleurs gardé leurs armes, et rentré à la maison, ben, il n'y a plus d'État, et on est de fait dans une situation révolutionnaire. Est-ce qu'un tel scénario pourrait se répéter ? On voit bien que la capacité à mobiliser est un pari très très risqué.
Même si les comparaisons historiques sont toujours risquées, on peut donc se demander, me dit Peter Lagroux, si l'issue ne pourrait pas être similaire dans ce cas-ci pour Vladimir Poutine, similaire au sort du tsar en 1917.
De plus en plus, on semble dire, vu la détermination de Poutine, la seule vraie issue sera un renversement de Poutine qui semble peut-être moins inimaginable qu'avant, vu les difficultés régionales qu'il rencontre et vu aussi les désaccords avec ses propres généraux.
Mais là-dessus, les signaux ne sont pas très clairs. Et si les Occidentaux guettent et espèrent que le pouvoir se lézarde autour de Vladimir Poutine, Isabelle Mandreau, spécialiste de la Russie et qu'on entendait au début de ce podcast, elle ne voit pas vraiment de signe annonciateur de la chute du maître du Kremlin.
Si on parle dans l'entourage de Vladimir Poutine et au niveau des responsables politiques du pays ou militaires, nous ne voyons pas encore les signes de désaffection, disons les choses comme elles sont. Il n'y en a pas chez les diplomates, il n'y en a pas chez les hauts gradés militaires, il n'y en a pas non plus dans les hauts rangs de la sécurité. Pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. Bien sûr, chacun guette un peu ça en se disant est-ce que ça peut être marqué un tournant, la fin du règne de Vladimir Poutine. Mais force est de reconnaître que ce n'est pas encore le cas. Dernièrement, Vladimir Poutine a limogé un haut général de l'armée russe qui était responsable de la logistique, notamment en Ukraine. C'est assez rare, donc, mais ça ne veut pas dire que ça entraînera un vent de fronde. En revanche, ce qu'on constate, c'est un divorce avec une partie de la société, mais c'est, encore une fois, c'est une partie de la société, avec ces images terrifiantes et terribles d'hommes qui fuient par tous les moyens le pays, ou des personnes qui, avant, des familles même qui, avant ces hommes, ont commencé à quitter le territoire de la Russie depuis le début de la guerre, parce qu'ils ne soutiennent pas cette opération militaire spéciale, comme on dit au Kremlin. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Donc, il y a cette, pour l'instant, cette dichotomie entre une partie de la société qui est visible, qui manifeste son désaccord, et pas du tout, mais pour l'instant pas du tout, de fracture au sein du pouvoir.
J'en viens à une autre remarque intéressante que me fait l'historien Peter Lagroux. Même si l'on se focalise beaucoup sur l'armement des deux camps, et en particulier celui des Russes, armement conventionnel, armes nucléaires, ingénierie de la cyberguerre, ce conflit montre aussi, et même surtout, que ce qui fait la différence, ce sont d'abord et avant tout les hommes et leur motivation à combattre sur le terrain.
L'armement est une condition nécessaire, mais clairement pas suffisante si il n'y a pas justement cette volonté de se combattre. Donc finalement, on revient à des choses très ancienne. Le vrai facteur décisif dans un conflit militaire semble bien être, plus que jamais, la volonté des soldats de continuer à se battre. Et c'est cet avantage-là de l'Ukraine sur la Russie qui semble décisif et dont finalement, voilà, un siècle d'historiographie sur la Grande Guerre a souligné cela. C'est ces pays-là qui ont réussi à mobiliser leurs soldats dans la durée, voilà, something to die for, ceux qui sont prêts à donner leur vie, et il semblerait là que les démocraties ont été à la longue plus résilientes que les régimes autoritaires. Et donc se sont effondrés l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, même l'Empire tsariste qui était pourtant dans le camp de l'Entente, et l'Allemagne impériale a rencontré des difficultés énormes dès 17 aussi. Et donc il semblerait que là, le côté finalement démocratique de la société ukrainienne, avec tous ses défauts, semble être, en fin de compte, le vrai facteur décisif, plus que la disponibilité d'armement, plus finalement que cette fameuse arme nucléaire.
Et Peter Lagroux en déduit un scénario optimiste sur l'issue pour Vladimir Poutine d'une guerre très difficile à gagner pour la Russie.
L'hypothèse optimiste, c'est qu'il va à sa propre fin et que du coup, c'est une excellente nouvelle non seulement pour l'Ukraine, mais peut-être plus encore pour la Russie elle-même. Est-ce qu'il irait beaucoup plus loin dans la prise de risque inconsidérée ? On ne le sait pas. On espère que ce ne sera pas le cas. Je pense qu'on a des arguments qui nous poussent plutôt vers un optimisme prudent.
C'est peut-être l'occasion d'interroger et de rappeler les prismes en journalisme. Je suis moi-même de nature optimiste, et c'est sans doute au travers de ce prisme, qui plus est, de journaliste européen à Bruxelles, que j'ai choisi de conclure l'épisode sur cette phrase de Peter Lagroux. Mais vous l'aurez compris, bien malin qui pourrait dire ce qui se profile vraiment, puisque, comme le rappelait Yannick Keo, il n'y a pas de data sur la guerre nucléaire, et c'est tant mieux.
Allez, ça fait une bonne conclusion, ça.
J'espère en tout cas que ce nouvel épisode vous aura donné de la matière à penser, des clés de lecture pour comprendre les enjeux et vous faire votre propre opinion.
Est-ce que vous avez un tout petit peu chaud en papier, en fait, si vous avez les lunettes, ce serait top.
Merci, en tout cas, de nous avoir suivis. À la réalisation de ce numéro, il y avait Bawandine. La semaine prochaine, changement complet de sujet puisqu'on s'intéressera à la grande démission. Tous ces employés, le plus souvent jeunes, qui décident du jour au lendemain de larguer les amarres parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans leur emploi, parce qu'ils n'en peuvent plus de la manière dont leur entreprise fonctionne ou qu'ils estiment que leur salaire n'est pas à la hauteur du travail investi. Si vous souhaitez nourrir nos réflexions, commenter les émissions, nous suggérer des idées d'interlocutrices ou d'interlocuteurs, n'hésitez pas à le faire à l'adresse tournant@rtbf.be.